L'épluche livre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strate, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange. Des cornichons, de la moutarde,
du pain et beurre, de petits oignons. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Certains sujets étant plus longs que d'autres à décortiquer, cette émission fait suite à une discussion initiée la semaine dernière. L'équipe en cuisine est la même. Tous trois sont artistes et désossent joyeusement l'intelligence artificielle générative. Jazz, Margot, Gaëlle, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Nous continuons donc nos échanges et notre réflexion. Donc nous parlions de l'IA et de l'éthique, et notamment avec les starter packs, Instagram, etc. la semaine dernière. Maintenant, est-ce qu'on peut orienter, enfin, que pensez-vous en tout cas, IA et propriété intellectuelle, ces deux termes à coller, est-ce qu'il y a une réaction?
Ça ne marche pas ensemble.
Oui, Gaëlle.
Donc, comme le disait la dernière fois Margot, donc Sam Altman a très clairement reconnu que son IA générative avait été entraînée sur des milliers, des millions de livres de données volé. Donc, parce que sinon, ça aurait coûté trop cher et il n'aurait pas pu la faire. Voilà.
D'accord. Donc, il y a urgence à légiférer.
Tout à fait.
Et comment ça se passe en Europe par rapport à ça?
Alors, je sais qu'il y a une sorte de syndicat, European Writers Guild, quelque chose comme ça, qui s'est emparé du sujet et qui... a aussi travaillé avec pour l'European Act qui a été légiféré l'an dernier, si je me souviens bien.
Donc c'est très très récent.
Voilà, qui est donc pour protéger les données des Européens. En
D'accord.
Fait. On a de la chance, effectivement, comme disait Margot la dernière fois, qu'en Europe, on est plutôt bien protégé. Pour combien de temps? Je ne sais pas.
D'accord. Est-ce qu'il y a peut-être un côté positif, c'est-à-dire on est plutôt bien protégé pour l'instant, mais on sera peut-être encore mieux plus tard?
J'espère.
D'accord.
Et il va falloir s'emparer du sujet et se battre.
Très bien. Margot, vous sembliez pensive.
Non, en fait, il y a la propriété intellectuelle à la construction de l'IA, mais aussi questionnée à la fin. Et le procès qu'il y a eu il y a 2-3 ans, surtout envers Midjourney, avait surtout conclu que toutes les images générées par IA ne tombaient pas sous le coup de la protection du droit d'auteur. Donc il y a aussi ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que si vous sortez un livre généré par IA ou avec une couverture en IA, on pourra en vendre des produits derrière sans vous demander l'autorisation, parce que rien ne sera protégé par le droit d'auteur.
D'accord. Et ça existe, ça, des livres avec des couves générées par IA?
Oui.
D'accord.
Alors souvent c'est caché, on va dire, entre guillemets, parce que c'est des achats sur des sites stock image. Donc légalement, ils peuvent marquer uniquement source stock, ou stock image, ou le site, etc. Donc pas l'auteur derrière. Et le problème avec les IA, c'est que comme ça génère des millions et des millions d'images, et qu'on peut les vendre derrière, parce qu'ils peuvent, les sites de stock image sont remplis, débordent même d'images en IA. Donc quand on pense acheter une image en stock, et ben souvent on finit par acheter une image en IA.
D'accord, sans le savoir
sachant,
en fait.
En le sachant ou non, on peut... des fois le voir facilement, mais après ça dépend des images qu'on veut aussi.
Et comment on peut le voir ça si on est simplement acheteur, enfin de temps en temps occasionnel d'images? Ben,
on peut donner des tips pour savoir, mais au final dans 6 mois ces conseils-là ne marcheront plus. Donc l'année dernière on blaguait en mode, ah, regardez, l'IA fait 6 doigts au lieu de 5, maintenant elle fait très bien des mains. Donc c'est compliqué, il y a des lisseurs, il y a des styles, il y a des choses qui reviennent, parce que ben, souvent les gens, certes l'IA s'améliore, mais les gens n'ont peut-être pas les idées qui vont l'aider à s'améliorer, donc ils vont peut-être refaire les mêmes styles d'image. Donc il y a le style manga, le style Ghibli qui va revenir, le style Pixar, il y a des compositions qui reviennent, mais ça vient aussi des gens qui demandent de générer ces genres d'images. Donc,
D'accord.
En fait, est-ce que le moyen le plus simple, ça serait pas de demander tout simplement à quelqu'un de faire En fait, si on veut chercher une image en particulier, bah, il faut qu'on revoie qu'il y a bien un petit copyright avec un nom et un prénom, en fait. Mmh. Et effectivement, si on va sur un stock photo, bah, c'est peut-être considéré qu'on a une chance sur deux, voire plus.
Il faut sourcer l'image. Si l'image n'est pas sourcée, c'est que potentiellement, il y a de très grandes chances aujourd'hui qu'elle ait été générée par IA. On rappelle que l'IA génère des images avec le travail des utilisateurs, en fait, finalement, avec les données que donnent gratuitement les utilisateurs et les informations qu'elle va pêcher à droite à gauche sur Internet. Jess, quel est votre regard par rapport à la propriété intellectuelle et à l'IA générative ?
Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, hein. Je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit. Hein. Clairement, là, il faut que des lois soient créées, il faut vraiment faut arrêter de voler les auteurs, mais ça, pas que les auteurs en fait, comme on disait, tout le monde dessine ou peut faire une photo de son arbre à côté de chez lui, la mettre sur Facebook, et ça peut devenir une image en fait, tout peut devenir une image, il n'y a rien de protégé, et là, maintenant c'est ouvert, hein, la boîte de Pandore elle est ouverte. On ne peut plus rien faire, c'est-à-dire que là c'est ouvert, il y a beaucoup de photos qui sont plus protégées, qui le seront certainement jamais. Du coup, c'est à partir de maintenant, il faudrait bloquer, mettre des verrous, et là, on pourrait recommencer quelque chose de plus sain, mais en tout cas, tout ce qui est passé là, c'est fini.
D'accord, parce que si on arrête d'alimenter, quelque part, il n'y a plus rien.
Ça tourne en rond, l'IA, vu qu'elle génère à partir de ce qui existe, ça va créer, ça crée une masse, on va dire, plutôt uniforme à la fin. Et clairement, il y a des styles qui ressortent, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a des styles d'IA qui ressortent parce que, finalement, elle n'a pas assez de contenu pour créer de la nouveauté.
D'accord. Donc, vous savez reconnaître du premier coup d'œil
Pas du premier coup d'œil. Hein. Je trouve que les IA sont très performantes. Okay. Hein. Mais encore aujourd'hui, oui, là, on en parlait avec des affiches de festival BD qui ont été faites en IA. Et clairement, on le voit. Ça se voit. Et ça se voit parce que déjà, on connaît les auteurs. Et on sait que ce n'est pas un auteur qu'on connaît. C'est ou un mélange, un truc bizarre, un peu. C'est vraiment, oui, un bébé bizarre. Hein, c'est vraiment particulier. Et du coup, on les reconnaît pour l'instant. Mais même quand on les reconnaîtra pas, il va falloir vraiment que les lois soient faites avant qu'on les reconnaisse plus.
Mais
justement,
oui. Parce que pour l'instant, en tant que lecteur d'images, on a un sentiment un petit peu d'étrangeté, de malaise quand on voit encore. Encore pour l'instant, en fait, mais ce sentiment-là tend à disparaître.
On parlait la dernière fois des prompts. Si le prompt est bien fait, que c'est un auteur, par exemple, qui le fait, je pense que l'IA peut créer une image très performante. Si on est connaisseur, si on sait quel mot dire et comment expliquer quel type de peinture, si on peut tout expliquer, ce qu'une personne lambda ne pourrait pas faire, je pense qu'on peut avoir des IA très, très performantes.
Et justement, en tant qu'artiste, est-ce que ça peut générer des opportunités pour vous ? Des opportunités d'outils, de travail, de gestion du temps ?
Alors, si on parle d'IA, moi, ce que j'utiliserais comme IA, ça serait plutôt pour faire tout ce qui est mail et papier embêtant. Mais sinon, pour le dessin, non, j'aime trop dessiner pour l'instant.
Ben oui. En soi, l'IA étant un algorithme, il est fait pour nous. Enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends en tant que personne, en fait, qui n'utilise pas, qui n'est pas spécialiste d'informatique, mais il serait fait pour enlever les tâches rébarbatives, comme vous dites, administratives ou autres, mais les tâches dite plaisante et créative devrait être l'apanage.
Et mon travail n'est pas rébarbatif.
C'est ça.
Clairement, j'aime travailler, j'aime mon travail. Et oui, oui. Par contre, tout ce que j'aime pas dans mon travail, c'est-à-dire la compta, les papiers, si je peux le donner à quelqu'un d'autre, voilà.
Mais du coup, est-ce que c'est pas le travail du comptable ?
Bah si, à quelqu'un d'autre.
Est-ce qu'on ne déplace pas le problème, si on le donne à l'IA ?
C'est ça, mais je ne peux pas me battre à la place des comptables.
Il va falloir créer un syndicat pour tous les corps de métier.
Il va falloir qu'on s'alliance tous. Ouais.
Margot, comment vous voyez ça ? Est-ce que l'IA peut devenir un outil pour vous un jour ou générer des opportunités ? Ou est-ce que vraiment, pour l'instant, là, vous n'y voyez que des red flags et des problématiques à venir ?
Moi, j'y vois que des red flags, après, en ouvrant le côté pratique, je sais que, par exemple, moi, j'utilise Photoshop et en ouvrant les outils de Photoshop qui vont s'améliorer, etc. Regardez, vous pouvez effacer tel arbre au fond de votre photo facilement. Alors, oui, c'est pratique, mais en fait, ça aussi enlève l'apprentissage et la connaissance aussi et le savoir. Et j'ai un peu du mal avec ce côté de plus apprendre les choses, de plus savoir faire des choses et d'être juste un peu bête face aux images et de ne pas avoir aussi ce recul et cette critique de l'image aussi derrière, parce qu'en apprenant, on apprend aussi plein de choses et de juste faire bêtement, oh regarde, j'efface mon truc derrière ou je fais mes aplats, par exemple en BD, les aplats sont très chiants, je fais mes aplats rapidement. Ben, ça enlèverait aussi le côté satisfaisant après derrière. Enfin, il y a un côté, je sais pas, je peux comprendre que certaines personnes veulent s'enlever ce côté rébarbatif de certaines tâches. Mais
comme le disait Jazz à l'émission précédente, c'est-à-dire, on ne sait pas dessiner, l'IA permet de mettre en image ce qu'on a dans la tête.
Mais ouais, mais dessiner, c'est facile. Enfin, c'est facile dans le sens que c'est une feuille et un crayon, en fait.
Ouais.
Et là, ça serait juste dire aux gens, regardez, vous pouvez faire sans travail, sans... Sans vous améliorer, sans la satisfaction. En fait, on donne aux gens une satisfaction directe. Et ça, je le lis à tout Internet en ce moment, à tout ce côté du contenu rébarbatif, enfin, rébarbatif aussi justement, mais ce contenu tout le temps, ce désir de voir la dopamine toutes les secondes et de vouloir du contenu directement, en fait, ne pas avoir la satisfaction d'avoir fait quelque chose, quoi.
Oui, parce que là, vous parlez de contenu. Alors, on parle beaucoup de contenu de nos jours.
Oui, mais c'est le problème qui... En fait, pour moi, l'IA arrive à un moment donné... on lui a déroulé le tapis rouge, en fait, avec tous ces contenus et tout, cette manière de consommer l'art et la culture.
Oui, oui, oui. Gaëlle Hersan, vous vouliez réagir, peut-être ?
Oui, tout à fait. En fait, sur cette question du contenu, dire créateur de contenu, j'ai peut-être en hérissé certains auditeurs et auditrices, mais c'est vrai que c'est intéressant, on a basculé sur autre chose. Créateur de contenu pour les réseaux, pour ci, pour ça. Et... C'est devenu un peu des mots valises, un peu bateau quelque part. Et je voudrais revenir aussi sur le côté de l'apprentissage. Effectivement, on veut le résultat tout de suite. Mais le résultat tout de suite, tu sais pas pourquoi tu l'as au final. Et on demande un truc et on ne saurait pas expliquer pourquoi il y a tel cadrage, pourquoi il y a telle lumière, pourquoi il y a tel personnage. En fait... quand on construit une image, on se raconte une histoire, on a tout un savoir qui est derrière, qu'on a mis des années à faire et qui a une signification.
Il y a un savoir-faire.
Voilà, et que chaque trait, en fait, a une... Enfin, chaque trait, peut-être pas à ce point, mais en tout cas, une image faite a plus ou moins un sens, fait partie d'un processus. Alors que là, quand on demande... Ce genre d'image, c'est effectivement de l'immédiat. C'est de l'immédiatement créé, de l'immédiatement consommé.
Donc c'est du contenu, c'est consommable, comme on pourrait dire en jeu vidéo,
et
finalement.
C'est oubliable à une vitesse. C'est, oui, bah, je fais ça, je me suis marré 30 secondes, pouf, oublié. Oui, mais est-ce que c'est toujours ce côté... en fait... Je vais faire un mauvais jeu de mots, mais c'est consommable. Consommable.
Enfin, oui. Ça c'est un feu de paille.
Voilà. Et c'en est dommage. J'avais vu ça sur les réseaux. C'est comme si je voulais devenir aussi bon que Usain Bolt, comme ça. Mais ça n'a pas de sens.
C'est un épisode de Black Mirror, là, de la dernière saison, ça.
Certainement. Je ne l'ai pas vu. Mais Black Mirror...
Je viens de l'avoir et ouais, c'est un des derniers.
et c'est vrai que ça n'a pas... Enfin...
Ah oui, non, ça n'a pas de sens. Et ça rejoint justement le sujet dont on va parler juste après notre petite pause musicale. Comment donner du sens à cette IA quand on est artiste? Je vous laisse écouter, chers auditeurs, le morceau choisi par l'une de nos invitées. Thank you.
Chers auditeurs, vous écoutez L'Épluche Livre. Nous sommes en compagnie de Gaëlle Hersan, Margot Saltel et Jazz. Et nous discutons de l'IA générative et des métiers artistiques. Gaëlle, c'est vous qui avez choisi le morceau que nous venons d'écouter ?
Oui, tout à fait. C'est donc le morceau sur le sans-visage du voyage de Chihiro d'Hayao Miyazaki, musique composée par Joe Hisaishi.
Pourquoi avez-vous choisi ce titre ?
Alors, d'une, parce que j'aime énormément Ghibli. De deux, dernièrement, il y a eu une trend de faire toutes ces images à la mode, au style de Ghibli.
Donc c'était faire par l'IA.
Faire par l'IA. Et qu'en fait, Hayao Miyazaki est quelqu'un qui, en 2016 ou 2018, quand on lui a présenté des vidéos avec des pantins animés par IA générative, a dit que c'était une insulte à la vie.
D'accord.
Voilà.
Non, là, c'est un hommage.
Voilà,
que vous rendez,
tout à fait.
Et une position claire et ferme que vous prenez.
Tout à fait.
Très bien. Très bien. Donc, nous continuons sur le sujet de l'IA par rapport au fait de donner du sens à l'art, donner du sens à la création, sortir de cette idée dont on discutait de produire du contenu consommable, presque du combustible en fait, hein, simplement. comment on peut aujourd'hui en art donner du sens, Jazz ?
Je pense que le sens, il existe déjà. Enfin, il n'y a pas besoin d'en donner ou d'en rajouter. Je pense vraiment que... Enfin, on fait, tous les trois, souvent des salons de BD, des dédicaces, des séances de dédicaces. Rien qu'à voir les gens en train de nous regarder, ils savent que c'est plus important que juste le dessin final, en fait. C'est le fait de faire qui est déjà important en soi. Et vraiment, quand on est en train de dessiner, qu'on a le geste, combien de fois j'ai eu des enfants ou même des adultes qui regardent ma main et qui disent « Oh, le trait, il est parti dans ce sens-là et c'était pas prévu. » Et ça c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. Mm. Et ça, l'IA peut pas le remplacer déjà. Donc moi, je pense que du coup, il va falloir qu'on soit plus productif dans le sens où on doit plus montrer notre art, montrer notre dessin, montrer comment on le fait, se montrer nous, peut-être un peu plus.
Sortir un peu de sa grotte, c'est
ça ? Ouais, exactement.
Et ça, c'est quelque chose qui vous porte en tant qu'artiste, d'aller à la rencontre de vos lecteurs ?
C'est quelque chose qui est difficile pour moi, mais je pense qu'il va falloir le faire. Je ne vois pas d'autre solution, parce que l'IA, comme on disait précédemment, elle est déjà là, en fait.
Oui.
Y a plein de choses où on ne pourra rien faire. C'est peut-être affligeant, c'est peut-être triste, mais il y a des choses qu'on ne peut rien faire. Et peut-être trouver des bonnes pistes pour faire autre chose. Moi, je pense que se diriger vers l'éducation. On parlait, les gens, s'ils sont au courant, comment on fait un dessin, comment on fait un plan, comment on prépare sa case de BD, tout ça, du travail qu'il y a derrière. Mm. S'ils sont au courant, ils suivront, en fait. Il y a eu cette révolution dans la cuisine. On a eu les plats préparés, les plats surgelés, et on revient à une cuisine traditionnelle et tout ça. Je pense vraiment qu'on peut revenir aussi à quelque chose de plus sincère, plus humain.
Donc, il y a les dessins générés par IA, c'est un peu comme du surgelé, c'est-à-dire que c'est pas très bon, c'est ça ?
C'est neutre.
C'est neutre.
Ouais. C'est utile, c'est pratique.
C'est utile, c'est pratique, voilà, mais ce n'est pas de l'art.
Non.
Et ça ne fait pas sens.
C'est ça.
Qu'est-ce que vous en pensez, Margot ?
C'est vrai que par rapport aux plats surgelés, ça me fait rire parce que c'est du consommer en fait, du contenu et quelque chose qu'on remplit. En fait. J'ai l'impression que l'IA remplit un vide qui n'existe pas et qu'on nous dit de remplir. Mais pour donner du sens, moi j'aime bien remettre la valeur travail des choses et montrer que l'image n'apparaît pas comme par magie derrière et qu'il y a des gens derrière, il y a... les rencontres en dédicace, les rencontres en atelier, il y a aussi les expositions locales, quelque chose qu'on peut faire aussi avec les gens proches de nous. On n'est pas obligé de consommer le dernier film Netflix qui vient de sortir, qu'on nous dit de regarder, parce que les IA, les algorithmes de Netflix nous disent de regarder ça. Et on peut regarder des choses autres, on peut sortir de... En fait, pour donner du sens, pour moi, il faudrait qu'on sorte de ce système, mais du coup, là, ça sera encore plus complexe. C'est regarder... ce qu'on a juste à côté de nous, quoi.
Qui donne le sens ? C'est l'artiste qui va donner le sens à sa création ou c'est son public ?
les deux, en fait. Je ne sais plus qui disait la mort de l'artiste, mais l'artiste va donner un sens quand on va créer, parce que derrière, il y a certes notre travail de dessin, mais il y a aussi les films qu'on a regardés, la vie qu'on a eue, etc. Donc toute notre politique, parce que tout art est politique, dans le dessin, mais après, le lecteur ou la lectrice aura aussi son contexte à lui derrière quand il lira. Donc il y a plein de sens, en fait. Et l'IA n'en a aucun, parce que l'IA n'est... L'IA n'a pas la valeur humaine derrière, donc voilà. Mais
l'IA est un outil. L'IA ne construit pas, ne produit pas de réflexion, ne se pose pas de questions existentielles. Justement, ne se pose pas de questions sur le sens de ce qu'elle fait, de ce qu'il fait, de ce que cette chose. Il faudrait peut-être créer un neutre robotique, je ne sais pas. Alors, quel impact par rapport aux autres métiers de la culture ? Là, on a beaucoup parlé donc artiste auteur, mais bon. L'IA, bien sûr, on constate que l'IA prend la place aussi sur d'autres types de métiers, notamment, moi, de ce que je peux voir en librairie, sur les traductions ou éventuellement, par rapport aux films, les doublages. Gaëlle, c'est des sujets sur lesquels vous vous êtes penchée, je crois ?
Alors, c'est en discutant avec des gens de mon atelier, donc des traducteurs, interprètes, qui... en fait, se retrouvent avec des clients qui leur demandent juste de corriger ce qu'a fait l'IA. Donc, plutôt, en fait, c'est vendu comme un outil magique qui va simplifier la vie, etc. Mais d'un autre côté, ça vole un certain travail. Ça ne va pas dans les nuances, l'humour, le second degré, etc. Et en fait, ça rend le boulot, quelque part, encore plus ennuyeux, parce que certaines personnes ne font que superviser et corriger. Alors, et du coup, l'acte de création, qui est celui de traduction, est supprimé.
Oui, c'est donc ce que tout vous rejoignez, l'intérêt. Ce que disait Jazz, la création, il faut qu'elle reste humaine.
Oui, et c'est vrai que là, la base du travail du traducteur... il est tiré vers le bas et on leur demande juste de corriger 2-3 trucs de cette traduction faite par IA.
D'accord.
C'est quand même un petit peu dommage.
C'est quand même un petit peu dommage, oui. Je comprends tout à fait. Et pour les doublages ?
Alors, je vais peut-être laisser Margot parler.
Oui, il y a le collectif qui s'appelle Touche pas à ma VF, qui a été monté il y a 2 ans même, je dirais, avec plusieurs acteurs et actrices du doublage, dont des très connus depuis longtemps en France, qui se sont faits en collectif pour parler de tout ça, en fait, parce que leur métier est en train de disparaître. Là, il y a eu le doubleur de Stallone qui avait été utilisé sans le consentement de la famille, parce que malheureusement, il est décédé, pour doubler d'autres films derrière, alors qu'ils avaient dit oui que pour un essai, il me semble. Il y a plein de choses comme ça, et il y a, je ne sais pas si ce n'est pas Netflix aussi, qui voulait tester de traduire avec la voix de l'acteur en toutes les langues, donc du coup ne plus passer par un doublage. Et là, je sais que depuis quelques mois, il y a aussi les doubleurs américains pour le jeu vidéo qui ont aussi monté un collectif pour les mêmes raisons.
D'accord, ok. Jazz, si je ne me trompe pas, vous avez développé une méthode pour apprendre à dessiner. Et alors, de là ma question, est-ce que si je demande à une IA, elle peut m'apprendre à dessiner ? Est-ce qu'elle peut me transmettre un savoir-faire qu'elle aura piqué à d'autres auteurs, d'autres artistes ?
Ah oui, évidemment.
Incroyable.
Oui.
Je ne m'attendais pas à cette réponse.
Oui. Non, mais l'IA fait peur. Je ne vois pas en quoi... En fait, évidemment, d'avoir une personne en face de soi qui t'apprend les choses et tout ça, ça sera toujours mieux, évidemment. Mais combien il y a d'enfants qui apprennent à dessiner ? Et moi, le premier, dans des bouquins, dans des vidéos. Aujourd'hui, c'est les tutos YouTube et tout ça. Les enfants, ils sont là-dessus. Et du coup... Même souvent, moi, par exemple, j'avais pas honte, mais j'osais pas demander de prendre des cours de dessin et tout ça. Donc, j'allais de moi-même rechercher des choses, peut-être des fois en cachette, ou pour apprendre à dessiner, trouver des bouquins, des trucs comme ça. Alors, à mon époque, c'était des bouquins, mais aujourd'hui,
oui, toujours,
aujourd'hui, c'est des tutos YouTube pour les gamins.
Des livres,
évidemment. Mais oui, je pense qu'ils peuvent avoir une base de technique.
D'accord.
On peut trouver une base de technique sur l'intelligence artificielle, c'est évident. Okay. Mais par contre, on sera toujours... moi, c'est pareil, quand je prépare mes documents, il y a une partie que je n'écris pas, qui est faite qu'à l'oral, que sur le moment, quand j'interviens avec mes élèves, quand je vois leurs difficultés.
Et qui ne sera qu'à ce moment-là.
Ça, c'est unique. Oui, c'est vrai.
Très bien. Il nous reste deux petites minutes pour le mot de la fin. Alors, est-ce que je peux laisser peut-être Margot et Jazz finir sur une note plutôt d'espérance, plutôt positive, ou même Gaëlle, si vous avez... Alors Gaëlle, je m'y tournais un petit peu moins, parce que je ne sens pas trop d'espoir, à part la pédagogie, bien sûr.
La pédagogie, les lois, militer, continuer aussi à soutenir aussi les gens qui parlent de tout ça.
Oui.
Bon, je m'inclus dedans, mais ça fait du bien, en fait, d'avoir des retours des gens... de commenter quand on voyait des personnalités publiques l'utiliser, des choses comme ça, et aussi pour du positif, comme je disais tout à l'heure, aller voir des concerts locaux, aller voir des artistes locaux, organiser des choses, faites des collectifs, faites des expos, faites des choses entre vous, et c'est là où il y a la beauté, et c'est là où il y a surtout de l'originalité, en fait, je trouve aussi. Ouais. Parce que ce qui fait peur avec l'IA, c'est que tout va être pareil, et on n'aura plus aucune originalité, quoi.
Donc, faire vivre les artistes, faire vivre le spectacle vivant, faire vivre la création artistique, c'est ça qui donne du sens, finalement. On était en recherche de sens dans cette émission.
Toujours le lien humain.
Ouais. Le lien humain, en premier. Oui, ouais, ouais, tout à fait.
Le live comme les concerts. Hein. Un concert live, c'est toujours mieux. Hein.
On est d'accord.
Évidemment. Ouais, toujours en live.
OK. Merci beaucoup. Merci, chers invités. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir une deuxième fois aujourd'hui. Merci. Merci, chères auditrices, chers auditeurs. Et je vous dis à bientôt sur L'Épluche Libre.
L'Épluche Libre.
Vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strate, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange des cornichons, de la moutarde, du pain et beurre.